parole. On veut rendre grâce ensemble. Père Céleste, merci parce que tu envoies ta parole. Et c'est vrai que nous sommes guéris, délivrés, aidés, secourus. Merci pour la force, la puissance de cette parole. Merci parce qu'elle vient toucher notre esprit, notre cœur, nos pensées, notre intelligence, notre être entier. Merci parce que par elle, nous avons la vie. Amen. Voilà, on a chanté tout à l'heure ton nom. Le nom de Jésus est comme une ligne de vie. On verra tout à l'heure qu'est-ce que c'est que dans le monde professionnel, dans le monde de la sécurité, qu'est-ce que c'est qu'une ligne de vie. Dieu a donné aux hommes plusieurs signes. Vous vous rappelez le signe de Noé, c'était quoi? L'arc-en-ciel. Donc, quand on voit un arc-en-ciel, voilà, et qu'on lit l'écriture, on se dit, voilà, un signe d'alliance avec Dieu. Un autre signe pour Israël, le signe le plus important, un sacrifice, le sang. On va parler ce matin de cette ligne de vie qu'est le sang, sécurité, protection, secours. La ligne rouge de la rédemption, de la libération. La libération de tous les hommes qui proclament, qui croient, qui annoncent le nom de Jésus, Dieu Sauveur. Pouvoir proclamer le nom de Jésus sur tous les temps depuis un murmure. Jusqu'à une proclamation dans le ciel. Voilà, vous pouvez le faire en chantant, en dansant. Ça peut être un chant guerrier. Mais le nom de Jésus est quelque chose d'extraordinaire sur le plan spirituel. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Le nom de Jésus est d'une puissance extraordinaire. Dans beaucoup de métiers, il y a ce qu'on appelle une ligne de vie. J'ai découvert ça en faisant de l'hygiène sécurité. Dans mon travail, pendant des années, la mairie de Lorient, les gens montaient sur le toit faire des réparations. Et puis un jour, nous, on y est montés. Et on a vu qu'il manquait une ligne de vie. Alors c'est quoi une ligne de vie? Eh bien, c'est simplement sur un toit plat, sur le rebord, mettre des piquets avec des fils en inox. Pas que ça rouille, où on peut s'accrocher avec un mousqueton quand on travaille au bord du vide. Ça vous parle, une ligne de vie? Qu'est-ce qu'une ligne de vie sur l'autoroute? Alors, je vais vous... Ça va vous rappeler des choses. Un mouvement populaire? Je me suis dit, est-ce que je le fais ou je le fais pas? J'en ai vu un avant-hier en allant en rentrant de Quévin à Gestel. Un monsieur dont la voiture était arrêtée sur le bord de la quatre voies. Il était derrière la barrière et il avait mis son gilet. Moi, je ne vais pas vous faire flashy pendant tout ce temps de partage. Les panneaux de signalisation sur la route sont une ligne de vie. Si je ne m'arrête pas en feu rouge, à un stop, si je ne regarde pas à gauche, à droite, à un laisser-passer, comme on dit, ça craint. Il y a un code de la route, c'est toutes les règles, toutes les lignes de vie sur la route qu'il faut pour survivre au flux de voitures. Bon, par ici, ça ne prête pas trop peut-être à la conséquence. Mais Si on va dans les grandes villes, sur Paris, sur... il y a 2 ans, j'étais à Neuchâtel. J'avais de la peine à conduire parce qu'il y a des tunnels, on change de vitesse tous les 100 mètres. Et puis, voilà. Il faut être réveillé, il faut bien regarder les panneaux. Si je vous dis EPI, alors peut-être si vous n'êtes pas dans le monde professionnel, ça ne vous parle pas. Équipement de protection individuelle. Dans le travail, on avait fait tout un petit manuscrit. Et chaque stagiaire, chaque nouvel embauché, je devais passer 1 heure et demie avec eux, 1 heure, 1 heure et demie, et puis voir tout ce document. Et à la fin, ils devaient signer comme quoi ils en avaient pris connaissance. Et puis, c'était toutes les règles en espace vert avec une tronçonneuse, une débroussailleuse. Comment on doit mettre des protections auditives, des lunettes quand on travaille dans la poussière, les chaussures de sécurité, un gilet jaune. Comment gérer un chantier sur la voie publique? Ça m'arrivait de faire tailler des haies qui faisaient 5-6 mètres de haut près de l'université. Il y a juste deux voies, un trottoir où il y a des voitures. Et comment le matin, ben, il faut mettre tous les panneaux, les pneus, alors nous on les appelait des carottes, les pneus rouges et blancs. Et puis, voilà, toute la signalisation qui va avec la sécurité. Quand les peintres, les couvreurs travaillent sur une maison, sur les toitures, on met un échafaudage. Sur les échafaudages, il y a un garde-corps. Dans le meilleur des cas, je ne sais pas, il faut mettre un harnais et puis avec un mousqueton, on s'accroche pour ne pas tomber. Une ligne de téléphone, votre portable, ça peut être une ligne de vie. Si vous avez crevé sur l'autoroute et que vous n'avez pas la bonne pièce pour changer. Pareil, alors, bon, ça m'arrivait un jour de Noël avec Laetitia. J'allais voir à la maman de Catherine la maison de retraite et puis ma roue a crevé. Et puis là, je me suis rendu compte que j'avais un écrou de sécurité. Tout le monde en a un dans sa voiture et moi, je ne l'avais pas. Donc au bout d'une demi-heure, on s'est bien énervé. Il faisait froid, il y avait du vent. Allô, l'assurance. Et puis une demi-heure après, le camion était là pour dépanner. Si on n'a pas de portable, on fait comment? On court à pied, c'est de trouver un téléphone orange. On peut faire quelques kilomètres. Allô, la dépanneuse, une ligne de vie. Il y a un dicton qui dit « La vie ne tient qu'à un fil de sécurité ». Est-ce que le nom de Jésus dans le monde spirituel est ma et notre sécurité? Et qu'est-ce que ce nom peut bien vouloir dire? On a parlé de l'arc-en-ciel. Avant de sortir d'Égypte, Dieu a envoyé sur l'Égypte un châtiment sur tous les premiers-nés, tous les enfants mâles. Et Israël a dû sacrifier un agneau et mettre le sang sur les linteaux, sur l'encadrement de la porte. Le temple de Jérusalem, le pardon des péchés ne fonctionnait qu'avec des sacrifices. Quel signe Dieu a envoyé à l'humanité tout entière? Ce signe, c'est la croix où Jésus a été élevé. Ils ont percé ses mains, ses pieds. Dans la journée, alors on dit souvent, voilà, les hommes l'ont tué, oui, puis en même temps, c'est lui qui a décidé du moment. Il rendit l'esprit, nous dit simplement l'évangile de Jean. Il a redonné au Père, hein, ce que le Père lui avait donné, cette vie terrestre. le sang de Jésus a coulé sur la croix. Ça, c'est un signe. Quand on prononce le nom de Jésus, c'est toute l'œuvre de la délivrance, de la rédemption, du pardon des péchés que l'on prononce. Dans les sociétés, les civilisations orientales, le nom est très, très important. Le nom de Jésus, c'est le nom de celui qui, par sa parole, a créé le ciel et la terre. Et c'est le nom par lequel nous sommes guéris, délivrés, aidés, secourus. En cas de difficulté spirituelle, pensez, fil de ligne de vie, ligne rouge, Jésus, ton nom. Ton nom pour moi est magnifique. Ceux qui ont des vies à risque. Dépendance, il y en a de différentes sortes. J'ai fait partie de ceux qui ont eu des difficultés avec différents produits. À un moment donné, comment on fait pour passer à autre chose, trouver un secours, ligne de vie au sens large. Aujourd'hui, le monde recèle, en tous les cas, si ce n'est des pièges, toutes sortes de choses avec lesquelles qu'il faut utiliser en prenant du recul. Je pense à tout le monde de l'information. Il y a des bonnes choses, mais tout n'est pas bon à prendre. J'ai regardé l'autre jour un documentaire sur cette fameuse intelligence artificielle, ChatGPT, capable de fournir toutes sortes de choses. On n'en est qu'à la première génération. Dans 10 ans, je ne sais pas à quelle génération on sera de ce mode de communication, de comment nos enfants vont se développer avec ça. Moi, voilà, à mon âge, j'ai la péremption, donc je me sens moins concerné par toutes ces choses. Mais la génération qui vient, mes petits-enfants, je me dis comment mes enfants vont gérer l'éducation de leurs enfants, avec toutes ces choses qui nous dépassent, ou avec une oreillette. Un algorithme te dira va à gauche, va à droite. Hein, c'est ce qui. Bon, déjà avec le GPS, on y est presque. À gauche, à droite. Je vérifie toujours avant sur les cartes et je fais toujours mon itinéraire avant de mettre le GPS sur la voiture. Toujours, c'est moi qui le contrôle. Pas, parfois, ça bug dans un sens ou dans un autre. Formation au premier secours spirituel. Seigneur, ton nom, ton sang, versé pour moi. J'aimerais lire un texte avec vous. Peut-être vous disiez, mais quand est-ce qu'il va nous lire un texte de l'Écriture ? On lit dans 1 Pierre, hein, au chapitre 1, les versets 18 à 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Quelle est ma ligne de vie ? Dans le monde que j'ai hérité de mes pères. On trimballe avec nous. En ce moment, le mot casserole est aussi à la mode. Hein. On trimballe des casseroles. Moi, j'en avais un paquet. Ça m'a pris du temps pour les tirer les unes après les autres. racheté, c'est-à-dire libéré, délivré de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères. Mon père est décédé, j'étais jeune. J'ai l'impression de ne pas avoir vraiment eu de rapport de père à fils, quelqu'un peut-être un petit peu lointain. Comment est-ce que je peux recevoir un autre héritage ? Laissez Dieu me faire entrer dans quelque chose de nouveau. On prend un deuxième texte dans l'Apocalypse. Les très beaux textes dans l'Apocalypse, hein, ce n'est pas que des choses qui font peur. Très beau livre, avec beaucoup de belles paroles. Apocalypse au chapitre 12, les versets 10 et 11. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur des frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Le nom de Jésus, le sang de Jésus, et la parole de notre témoignage, pouvoir le proclamer au travers du nom de Jésus. Il y a quelques générations, un pasteur a raconté cette histoire. Voilà, comme ça peut arriver parfois, il se sentait au fond d'un trou et il n'arrivait pas à remonter. Et puis le diable lui disait, bah, tu vois, tu es très bien là avec moi, confortable. Tout. Et ce pasteur a dit, mais comment je peux sortir de cet état et voilà, de ce temps de déprime. Et puis il s'est dit, mais même si je dois rester là pour l'éternité, je vais confesser le nom de Jésus. Et quelque chose s'est passé, et son horizon spirituel, il a retrouvé quelque chose de nouveau, de meilleur. L'ennemi peut essayer parfois de nous décourager par diverses choses, spirituelles ou non, puis tout d'un coup on se laisse tomber, engloutir dans quelque chose comme cela. Un autre texte dans l'Apocalypse au chapitre 1, les versets 5 à 6. Oh. Au verset 4, « Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Qui a fait de nous des rois, un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Quand je prononce le nom de Jésus, je prononce le nom de celui qui est le premier-né d'entre les morts. Je prononce le nom de celui qui est le prince des rois de la terre, qui a toute souveraineté, toute autorité dans le ciel, sur la terre, sous la terre. C'est universel, dans tous les âges, et pour toujours. Son nom a toujours été quelque chose d'extraordinaire. Dans ces trois textes, on a vu qu'il y avait une ligne rouge. Quelque chose de nouveau vient dans nos vies parce que Christ a donné sa vie, parce qu'il a versé son sang. S'il n'y avait pas eu de sang versé, notre état n'aurait aucun changement. J'aimerais juste vous résumer un petit peu cette notion du sang dans l'Écriture. Un texte où il dit « Ne pas verser le sang innocent ». Rappelez-vous, Caïn et Abel. Caïn tue son frère. Puis Dieu dit « La voix du sang de ton frère s'élève de la terre. » Ça appelle un jugement. Le sang, l'âme, c'est la vie. Je ne vous donne pas toutes les références, mais vous pouvez les retrouver chez vous. Le sang, l'âme, la vie intérieure, c'est la vie. Christ est la vie, et il a donné son sang pour moi. Quand sur la croix, son sang a coulé, voilà quelque chose. Le sang fait l'expiation sur l'autel. Tout le temps du temple d'Israël, une fois par an, le souverain sacrificateur faisait l'expiation pour tous les péchés du peuple. Et comme cela, le peuple pouvait toute l'année savoir que quelque chose de nouveau était venu. Pâques, le sang sur les linteaux, la sortie d'Égypte, l'agneau immolé. Quand on prononce le nom de Jésus, eh bien, c'est aussi tout ce côté de l'agneau du sacrifice. Quand on prononce le nom de Jésus pour Dieu, pour le Père, il y a cette association, oui, j'ai donné mon Fils. Il est, voilà, on a beaucoup de textes dans le Nouveau Testament, il est l'agneau immolé, sans tache, sans défaut. L'agneau est le signe de l'alliance. Quand Jean a présenté Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le nom de Christ. Le signe d'une nouvelle alliance par le sang. J'ai parlé de... Voilà, bon, il y avait un symbole tout à l'heure, hein, c'était ce gilet jaune. Il y a un autre symbole dans l'Écriture qui est un fil rouge, un fil cramoisi. Est-ce que vous vous rappelez de quelle histoire c'était ? On prend ensemble un texte dans Josué. Et on va lire l'histoire de Rahab. Ah, c'était quelqu'un d'intéressant. Livre de Josué. Voilà, Josué, chapitre 2. Voilà, je vous rappelle l'histoire. Josué doit conquérir tout ce nouvel espace de Canaan. Et Dieu dit, bah, on va envoyer des éclaireurs, voir comment est le pays, voir où sont les forces, les faiblesses de l'adversaire. Et puis, eh bien, on va ensuite attaquer. Et Josué se présente devant Jéricho. Vous vous rappelez de l'histoire de Jéricho ? Ils vont tourner autour et puis les murs vont s'écrouler. Là, je vous lis, hein, Josué, fils de Noun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en disant « Allez examiner le pays, en particulier Jéricho ». Ils partirent, ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Ces hommes sont hébergés par une femme, voilà. Alors le Nouveau Testament a dit une femme de mauvaise vie. Mais on voit que, voilà, pour les espions, ça ne pose pas de problème. Et puis, Rahab, qui a des antennes, des oreilles un petit peu partout, elle entend que les soldats de Jéricho cherchent ces espions. Et donc, elle les cache sous des tas de branches chez elle. Au verset 8, « Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je sais, vous a donné ce pays. » La terreur que vous nous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, comment vous avez traité les deux rois amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, que vous avez dévoué par interdit. Nous l'avons appris, nous avons perdu courage. Tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Il y a quelque chose qui s'est réveillé pendant cette prise, ce début de combat dans l'esprit de Rahab. Et elle s'est dit, et elle confesse, c'est votre Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Et cette confession l'amène à protéger ces deux espions. Maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Une alliance, une promesse de part et d'autre. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères, toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort par la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Nous serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. » Voilà. Donc, vous avez compris le principe de la ligne de vie. Pour avoir le salut pour elle et toute sa maison, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, tous les gens qu'elle connaissait, elle fait un deal, un défi avec ces deux espions, et puis voilà, elle dit, mais voilà, jurez-moi au nom du Seigneur que vous aurez la même bonté envers moi que j'ai eue envers vous. Et ils disent, ok. Et ils disent, voilà, tu vas mettre un fil cramoisi, et tout le monde reste dans la maison, puis nous on va donner des ordres, ta maison sera protégée. Est-ce qu'il y a un fil rouge du sang de Christ dans ma vie? Protection. Protection contre l'ennemi, protection. Voilà, pas un talisman, pas. Voilà. Le nom de Jésus n'est pas non plus voilà, la pièce de monnaie qu'on met dans un distributeur pour avoir des choses. Ce n'est pas quelque chose de magique, c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas la même chose. Pour diverses raisons, on a lu, hein, Jésus a vaincu l'accusateur. Il a versé son sang et nous pouvons le mettre de côté par la parole de notre témoignage. Est-ce que vous avez une idée de ce que veut dire le nom de Rahab? Rahab, ça veut dire impétueux, tumultueux, comme le Léviathan, ces bêtes qui sont dans les profondeurs de la mer et qui faisaient peur à Israël. Ils en avaient toute une mythologie que l'on retrouve dans le livre de Job en Orient ancien. Voilà, pour les gens, il y avait une espèce de monstre, de serpent ancien qui était dans la mer et qui faisait peur à tout le monde. Et s'aventurer en mer, c'était toujours... Et Rahab, c'est un nom égyptien. Donc, pour Israël, c'est pas des gens à fréquenter, c'est pas un nom à fréquenter. Et puis, en même temps, voilà, cette femme va vivre des choses extraordinaires. On lit au chapitre 6, les versets 21-23 de Josué. Lorsque le peuple entendit le ton de la trompette, il poussa de grands cris, la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Ils la dévouèrent par interdit au fil de l'épée, etc. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée, faites en sortir cette femme, tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent, firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille. Ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père, à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Cette femme a été sauvée, elle et toute sa famille. Vous vous rappelez d'un texte dans le Nouveau Testament, que tu sois sauvé, toi et toute ta famille. Avoir ce fil rouge, cette ligne de vie du nom de Jésus, avec voilà, tout ce que cela implique au niveau spirituel. J'aimerais lire un texte avec vous dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 1, verset 5, c'est une généalogie. C'est la généalogie du Christ Jésus. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David. Rahab est devenue la lignée de David, la lignée du Christ Jésus. Une prostituée cananéenne avec un nom égyptien qui fait peur. L'amour de Dieu dépasse notre entendement, et puis les jugements que nous pourrions avoir sur un tas de choses. Dieu le Père aimerait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je discutais avec quelqu'un hier qui a un arrière-plan musulman. Il disait, difficile, hein, Père, Fils, Esprit, cette place centrale de Jésus, ce nom de Jésus, avec tout ce qu'il y a en lui. Le nom de Rahab voulait dire plein de choses qui faisaient peur à Israël. Et Dieu l'a intégré dans la généalogie du roi David, qui a une maison royale dont le nom restera aussi pour l'éternité, que Dieu relèvera un jour. Et Rahab est dans la lignée du Christ Jésus. J'ai trois filles, donc mon nom va, à un moment donné, va passer à la trappe. C'est d'autres qui le feront passer, mais voilà. Il y a un salut pour chacun de nos noms. Et nous recevrons un nom nouveau qui sera inclus dans cette adoption que Dieu nous propose. Si tu confesses le Seigneur Jésus de tout ton cœur, de tout ton corps, de toute ton âme, et que tu crois que voilà, tu seras sauvé. Rahab a confessé, dit « Ouais, je reconnais maintenant que... » voilà. Israël, le Dieu d'Israël est mon Dieu, l'Éternel est mon Dieu. Dans tout Jéricho, une prostituée a fait confiance en Dieu, à Dieu. On va rendre grâce ensemble. Père Céleste, merci pour cette ligne de vie qu'à le nom de ton Fils, le Christ Jésus. Merci parce que dans cette lignée, cette généalogie, tu as inclus Rab. Merci parce que tu nous inclus. Tu connais chacun par notre nom. Et chacun pour notre part, nous voulons prononcer le nom de Jésus. Merci pour cette ligne de vie, pour ce fil rouge. Merci parce que notre vie ne tient plus qu'à un fil, mais tient au fil du nom de Jésus. Je veux te bénir, Seigneur, d'ouvrir nos yeux et voilà, d'aider chacun à trouver refuge en toi. Voilà, pouvoir se laisser serrer sur ton cœur, pouvoir se laisser remplir de cet amour adoptif. Tu nous aimes comme un père. Voilà, merci Père Céleste pour toutes choses. Amen.